Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Des millions de réfugiés en Ukraine qui fuient les bombardements russes. Le Groenland, une terre de l'Arctique dans la tourmente. Et comment réduire nos déchets? Voilà le programme d'Accent d'Europe aujourd'hui. Bonjour, plus de 5 millions de déplacés en Ukraine et des bombardements russes qui visent toujours des immeubles civils. Malgré l'ordre total d'évacuation donné à la population des régions Est, notamment autour de Donetsk, les plus âgés, les plus fragiles, hésitent à quitter leur foyer. Notre correspondante Emmanuelle Chaz est allée rencontrer des réfugiés dans la région de Dnipropetrovsk, à 250 km à l'ouest des combats, mais aussi près de Donetsk, auprès de ceux qui ont choisi de rester.
Nous sommes à Pavlograd, dans la région de Dnipropetrovsk, à une centaine de kilomètres au nord et à l'ouest de la ligne de front. Dans ce centre de transit, les évacués de la région voisine de Donetsk arrivent au compte-gouttes des villages de la zone de combat. Ces évacués sont pour la plupart des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer seules. Elles n'ont jamais vécu ailleurs que dans des villages en passe d'être réduites en poussière par les frappes russes. Dans la salle de théâtre transformée en hébergement d'urgence, certains évacués gisent encore en état de choc. Parmi eux, devant l'intensité des combats, Victor, 66 ans, ancien mineur, a accepté d'être évacué par une ONG. Il vient de Mirnograd, désormais sous un feu constant. Il n'a nulle part où aller.
Mirnograd est généralement fermé. Là où j'habite, il y a des combats. Ils ont déjà lieu partout. Je ne veux pas y rester.
Le temps de s'enregistrer dans le centre et les humanitaires trouvent une place pour Victor dans un foyer d'hébergement de la région de Kiev. Il accepte de s'y rendre, lui qui n'a jamais quitté Mirnograd. Plus à l'est, à Bilotselské, à une trentaine de kilomètres de Pokrovsk dans la région de Donetsk, il reste encore des milliers de civils. Anastasia, responsable de projet pour Caritas sur place, explique.
Aujourd'hui, il y a ici environ 5000 déplacés du district de Pokrovsk. Les gens ont déménagé parce que la mine est toujours en activité, mais il y a aussi des locaux ayant choisi de rester. Nous leur fournissons une aide humanitaire.
Nombre de ceux qui restent dans cette ville, pas encore dans la zone de combat, mais tout à côté, manquent de tout. Eau courante, chauffage, électricité. C'est en majorité une population vulnérable.
Nous recevons des tranches d'âge de 70 ans et plus, 60 ans et plus, des personnes handicapées, des familles avec de jeunes enfants. Là, nous allons distribuer les derniers kits d'hygiène. Au cours des deux derniers mois, nous en avons fourni à environ 4000 personnes.
Parmi ces civils, nous retrouvons Aliona, une mère de famille de 42 ans. Elle est venue récupérer un kit. Il n'envisage pas de partir de Bilotselské.
Je suis ici avec ma fille de 15 ans et mon fils de 5 ans. Je m'occupe aussi de ma mère handicapée, atteinte d'un cancer, et mon père a plus de 60 ans, il ne voit plus du tout. Je suis donc venue leur chercher des articles d'hygiène et leurs documents d'identité. Ma principale préoccupation concerne mes enfants qui sont actuellement coupés du monde. Ils ne reçoivent leur éducation qu'en ligne, et mon plus jeune vient de commencer l'école élémentaire. Je ne sais tout simplement pas comment lui fournir les premières bases de l'enseignement.
Pour Valentina, une ancienne bibliothécaire, un départ est aussi inenvisageable.
Par rapport aux villes de l'Est sous les bombes russes comme Sloviansk, Kramatorsk ou Pokrovsk, c'est beaucoup plus sûr. Mais c'est horrible. Comment ne pas avoir peur? Nous avons eu des explosions à proximité de Dobropilia le mois dernier à 15 km. Lorsque les drones et l'artillerie auront atteint Pokrovsk, ils essaieront de nous achever ici aussi. Mais nous n'avons tout simplement pas d'autre endroit où aller.
La plus grande crainte de Valentina concerne les bombes planantes que la Russie a de plus en plus utilisée depuis l'année dernière.
Eh bien, nous aimerions une sorte de trêve, comme on dit, par des moyens diplomatiques, pour que ces bombes, les KAB, qui ne peuvent pas être arrêtées, s'arrêtent de tomber.
À la mi-décembre, selon les autorités ukrainiennes, il restait encore plus de 300 000 civils dans la région de Donetsk, dont plus de 50 000 dans la zone de combat. Ceux qui se résignent à partir s'installent souvent dans les villes les plus proches, comme Pavlograd ou Dnipro, par manque de moyens et de perspectives. Aucun n'avait un jour envisagé de devoir quitter leur domicile pour recommencer une nouvelle vie.
«
Ce n'est pas tous les jours que le Groenland figure en tête des préoccupations mondiales. C'est chose faite depuis que le futur président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré son ambition d'annexer ce territoire. Territoire autonome danois, faut-il le rappeler, allié des États-Unis au sein de l'OTAN. Et c'est bien sûr l'ouverture de votre revue de presse, Franceline Beretti.
L'ancien et bientôt nouveau président américain a d'abord affirmé avant Noël que les États-Unis devaient devenir propriétaires du Groenland au nom de la sécurité nationale et de la liberté à travers le monde. Il a réitéré sa volonté de rendre le Groenland américain mardi lors de la visite de son fils Donald Trump Jr. sur ce territoire arctique. Pour rappel, le Groenland a été une colonie danoise jusqu'en 1953, puis il est devenu un territoire autonome. En 2009, il a obtenu le droit de décider de son indépendance par un vote qui n'a toujours pas eu lieu. Évidemment, Copenhague espère garder une très étroite collaboration avec son ancienne colonie, riche en ressources naturelles. Mais le dossier est compliqué. D'ailleurs, dans la série danoise Borgen, les premières ministres se refilent la patate chaude.
Le dossier du pétrole groenlandais est tout à toi à présent. C'est ce que tu voulais, non? Te voilà enfin seul sur cette maudite banquise. Reste à espérer qu'elle ne fonde pas sous tes pieds.
La sortie de Trump a été suivie du discours du Premier ministre groenlandais pour la nouvelle année, discours publié par la revue Le Grand Continent. Il y a rappelé la nécessité de s'émanciper du Danemark tout en affirmant que son pays n'était pas à vendre. Alors les habitants du Groenland auraient-ils intérêt à passer sous protection américaine ? Sur la très trumpiste Fox News, on explique que Washington est mieux placé que Copenhague pour les défendre.
L'influence américaine en Arctique est extrêmement importante. Il s'agit de stratégies géopolitiques majeures. Regardez ce que sont capables de faire nos ennemis, les Chinois et les Russes. Ils sont vraiment agressifs en Arctique et le monde libre doit y prendre garde et se réveiller. Je crois que c'est ce que Trump fait en disant « Nous voudrions plus d'influence sur cette terre ».
La famille royale danoise a pris une mesure radicale dans cette guerre géopolitique sans pitié, c'est le Guardian qui le raconte. Elle a décidé de modifier ses armoiries pour y donner une place plus importante à l'ours polaire et au bélier, symboles respectifs du Groenland et des îles Féroé.
Et puis Franceline, un autre sujet à la une des médias européens, en Grande-Bretagne, le scandale du gang des pédophiles refait surface.
C'est une vieille histoire, mais la presse britannique a révélé la semaine dernière que Jess Phillips, la ministre travailliste chargée de la lutte contre la violence envers les femmes, a refusé en octobre l'ouverture d'une enquête sur des viols commis à Oldham. Selon elle, cette décision relève du conseil municipal, pas du gouvernement. Sauf que cette affaire est bien un problème national, puisqu'à partir de la fin des années 90, plusieurs milliers de jeunes adolescentes ont été violées dans de nombreuses villes d'Angleterre. Oxford, Bradford, Rochdale, Manchester. Le réseau s'attaquait à des mineurs blanches et vulnérables, et la majorité des centaines de violeurs sont des Britanniques d'origine pakistanaise. L'affaire a été traitée de façon très superficielle par les institutions de l'époque. La police, la classe politique, une partie des médias n'y ont d'abord vu que des faits divers, sans admettre l'ampleur des crimes. Le journaliste Brendan O'Neill a enquêté sur ces réseaux d'exploitation sexuelle.
Ils ont pensé qu'on allait tous devenir fous, tourner islamophobes en une nuit si nous entendions la vérité. Ils nous considèrent comme une foule sur le qui-vive qui ne peut pas supporter la réalité, à laquelle il faut donc mentir. Je pense que c'était d'abord lié à ce souci de ne pas envenimer les relations interraciales, mais aussi à une sorte de racisme de classe, à cet extraordinaire désintérêt en ce qui concerne le bien-être et la sécurité des filles de certaines régions du pays.
Et puis on termine avec l'Autriche et une surprise puisque le leader de l'extrême droite pourrait être chargé de former un gouvernement.
Une configuration que le reste du paysage politique voulait à tout prix éviter, mais 3 mois de négociations entre conservateurs, sociaux-démocrates et libéraux n'ont rien donné. Le président autrichien, Alexander von der Bellen, se résigne donc à charger Herbert Kickl de la formation d'un gouvernement.
Tout le monde sait que ce n'était pas mon choix, mais ce n'est pas la question. Il s'agit pour l'Autriche d'avoir un gouvernement capable d'agir.
Le quotidien allemand FAZ souligne la fin d'une ère avec l'effondrement des deux partis qui ont gouverné le pays pendant des décennies, à droite et à gauche. L'Autriche est à la veille d'un changement d'époque, conclut-il.
Merci Franceline Beretti, à la semaine prochaine. 530 kilos de déchets par an et par habitant en Europe, selon les dernières statistiques. Si l'Europe tente de favoriser l'économie circulaire, elle est aussi relayée par des initiatives locales. Dans le nord de la France, la ville de Roubaix a lancé il y a 10 ans le défi zéro déchet. 800 familles y ont participé et ont réussi à diviser par 4 leurs déchets. C'est le reportage de Lise Verbeck.
Il y a 2 ans, Brigitte est tombée sur une affiche dans son quartier qui annonçait une réunion pour participer au défi Famille Zéro Déchet. Et c'est pour elle le déclic.
Bonjour.
Elle a suivi une vingtaine d'ateliers organisés par la mairie de Roubaix pour apprendre à réduire ses déchets. Dans un grand cahier, elle consigne soigneusement tout ce qu'elle y apprend.
Exactement, le 4 mars, j'ai commencé mon premier atelier. C'était sur le compost, parce que ça, c'était l'essentiel de mon projet, c'était de composter, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc là, j'ai saisi l'opportunité d'être formée. Et depuis, donc, j'ai vraiment pu limiter considérablement mes déchets.
Est-ce qu'on peut aller voir votre compost ?
Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc là, vous voyez le marc de café. Tous les déchets des épluchures de fruits et légumes.
Roubaix, qui fait partie de la métropole lilloise, ancien grand bastion industriel, est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France, avec 46% de sa population sous le seuil de pauvreté. Depuis 10 ans qu'existe le défi zéro déchet, ce sont 800 familles, comme celle de Brigitte, qui y ont participé. Cela représente environ 2,5% de la population de la ville du Nord, ce qui est peu, mais l'objectif est de le développer encore plus, notamment à destination des populations précaires, selon Alexandre Garcin, adjoint au maire de Roubaix, en charge de la transition écologique.
Les familles, en moyenne, elles font 1 000 euros d'économie. Sur un an, ça va assez vite, hein. Voilà, quand on commence à abandonner l'eau en bouteille pour passer à l'eau du robinet, à fabriquer soi-même ses produits d'entretien, à utiliser du vinaigre blanc plutôt que des produits marketés. Voilà, on fait vite des économies. Et donc, ce n'est pas qu'un truc de bobo, bien au contraire, c'est aussi un projet qui vise à accompagner tous les habitants et surtout ceux qui sont le plus dans la difficulté.
Les familles du programme produisent 4 fois moins de déchets que la moyenne. Face à ce constat, la ville de Roubaix a voulu élargir le dispositif, notamment en formant des ambassadeurs zéro déchet, qui sont une 60aine chaque année. Ils sensibilisent sur leur lieu de travail.
Bonjour.
Bonjour.
Ladja en fait partie. Elle travaille à la mairie de quartier Est et elle est chargée de sensibiliser ses 20 collègues.
Je propose une fois par semaine à mes collègues une astuce pour réduire ses déchets au quotidien. Par exemple, une astuce de produits d'entretien multi-usage qu'on peut utiliser partout dans la maison à base de vinaigre, de savon noir et de bicarbonate de soude. Vraiment des produits faciles à trouver, pas chers.
Les commerçants également y participent. 70 sont labellisés zéro déchet, comme dans cette librairie Salon de Thé. Ismaël, le gérant, essaie de moins commander de livres pour éviter qu'ils soient envoyés au pilon. Et il a aussi tenté de mettre en place les paquets cadeaux en tissu.
Au tout début, c'était le début, donc j'avais moins de clients. Donc on est en contact avec le vendeur de tissus en face, chez Alink, qui nous passait ses chutes. Et donc on faisait ça et on avait un système de caution, c'est-à-dire que vous payez 1 euro, vous prenez le tissu, et après vous le ramenez, on vous rend les 1 euro et on faisait un cercle comme ça.
L'objectif de la mairie est aussi de créer un écosystème d'économie circulaire autour du zéro déchet, avec notamment la plus grande recyclerie de vélos de France, ou encore des entreprises dans la mode ou la consigne de bouteilles. Le défi zéro déchet mis en place par Roubaix s'est étendu au fil des ans à une 20aine de communes de la métropole lilloise. En France également, d'autres villes comme Marseille, Montpellier ou encore Toulouse se sont lancées dans le défi sur le modèle de Roubaix.
C'est C'est une petite série télévisée qui fait du bruit en Irlande. Say Nothing, en français Ne Dis Rien, revient 25 ans après la fin du conflit sur la guerre civile en Irlande du Nord qui a fait 3500 morts. 9 épisodes qui racontent la violence de ce qu'on appelle avec pudeur les troubles, mais qui abordent aussi les non-dits, les tabous qui empoisonnent encore la vie politique et la société irlandaise. Clémence Pénard l'a regardé pour nous.
Dollars price. Promise that I will promote the objectives of the Irish Republican Army to the best of my knowledge and ability.
Sur 9 épisodes tendus, émouvants et politiques, nous découvrons l'histoire bien réelle de Dolores Price et sa sœur Marianne, militante emblématique de l'IRA, une organisation paramilitaire menant attaques armées, assassinats et bombardements pour lutter en faveur de l'indépendance de l'Irlande du Nord vis-à-vis du Royaume-Uni. C'est à la mort de Dolores Price et en lisant sa nécrologie que le journaliste américain Patrick Radden Keefe commence son enquête, fasciné par ses sœurs, rares femmes à avoir rejoint les rangs de l'IRA.
Ma mère et mon père étaient tous deux de fiers membres de l'armée républicaine irlandaise.
Dites les filles, je vous ai déjà appris à fabriquer des explosifs.
Nous avons eu une enfance heureuse dans l'ensemble. On était des catholiques, la ségrégation a été appliquée à la société. Les protestants avaient tout pour eux. Toute ma vie, j'ai cru que rejoindre l'IRA était la décision la plus noble qu'une personne puisse prendre.
Prépare-toi, on va être en retard pour l'école.
T'iras pas à l'école.
Dolores Price donne le ton. Ensemble, elle et sa sœur cadette braquent des banques déguisées en nonnes, font évader des prisonniers et même posent des bombes. En 1973, leur attentat contre le tribunal de l'Old Bailey à Londres fera un mort et 200 blessés. Incarcérés, les Price entameront une grève de la faim et seront par la suite nourris de force.
La série qui s'étend sur 4 décennies, Clémence, s'ouvre sur une page sombre de l'histoire de l'Irlande du Nord et de l'IRA.
Oui, l'un des crimes non élucidés qui hante encore la mémoire collective d'Irlande du Nord. L'enlèvement de Jean McConville à Belfast, cette mère de famille de 10 enfants, suspectée d'être une informatrice de l'armée britannique, est devenue l'une des disparues, ses victimes secrètement tuées et enterrées par l'IRA. Ses restes n'ont été découverts qu'en 2003 sur une plage de l'autre côté de la frontière, en République d'Irlande.
Et finalement, Clémence, cette série montre à quel point il y a encore des questions sans réponse et des non-dits qui datent de cette période.
Oui, Say Nothing porte bien son nom. Des pages du conflit restent taboues. La série met d'ailleurs en cause Gerry Adams, ancien président du Sinn Féin, la branche politique de l'IRA, une personnalité qui compte encore en Irlande. Ces non-dits impactent donc la vie politique d'aujourd'hui. Chaque épisode se termine par un message rappelant qu'Adams a toujours nié avoir été membre de l'IRA. Mais en dépit de cet avertissement, la série fait bien du politicien l'un des chefs d'orchestre des violences perpétrées par l'IRA. Dolores Price dénoncera le rôle qu'il a joué au micro d'un universitaire qui compilait une histoire orale des troubles, des enregistrements qui n'ont été publiés qu'à sa mort en 2013. Interrogé le jour même par des journalistes, voilà comment Gerry Adams avait réagi.
Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet, mais je ne pense pas que ce soit le moment approprié pour revenir sur ces questions. Dolores a exposé ses positions, j'ai exposé les miennes. Nous venons d'apprendre son décès il y a à peine quelques heures. Je pense qu'il faut se concentrer sur sa famille. Cela doit être extrêmement difficile pour eux.
En racontant l'histoire de divers membres de l'IRA, la série explore les extrêmes auxquels certaines personnes sont prêtes à aller au nom de leurs convictions, les coûts psychologiques d'un code du silence et l'impact durable de certains secrets sur la vie politique actuelle.
Accent d'Europe a été réalisé aujourd'hui par Théo Raison et Benoît Gouttorbe. Retrouvez-nous en podcast sur notre site et sur les réseaux sociaux. À bientôt.